Les infos à Washington.
Eric Manilakiza avec vous. Il est 16h temps universel, 16h à Ouagadougou, 12h à Washington. Heureux de vous retrouver pour ce journal de crise en République centrafricaine. Bangui est de nouveau paralysé aujourd'hui pour le troisième jour consécutif par des barricades tenues par des manifestants qui bloquent les principaux axes routiers. Le bilan des violences dans la capitale s'élève maintenant à 60 morts. 27 400 personnes ont été déplacées depuis samedi, déclare un porte-parole du HCR à Genève. Et la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, qui a interrompu son séjour à New York, où elle a assisté à l'Assemblée générale de l'ONU, est attendue à Bangui. On signalait à la mi-journée des tirs à l'arme lourde sur la route de l'aéroport Mpoko avec des hélicoptères survolant la ville. Et la République démocratique du Congo, RDC, a fermé hier lundi après-midi, jusqu'à nouvel ordre, sa frontière avec la Centrafrique. La frontière est fermée jusqu'à nouvel ordre parce qu'il y a une situation incontrôlable en Centrafrique et que nous devons protéger nos populations contre tout débordement, a déclaré Lambert Mende à l'AFP. Au Burkina Faso, le bras de fer entre les anciens putschistes et les autorités légales se poursuivait ce mardi. Les soldats du régiment de sécurité présidentielle RSP, auteurs du coup d'État du 17 septembre, refusent de désarmer. Les autorités semblent vouloir adopter une attitude ferme. D'après l'agence française de presse, l'armée a quadrillé ce matin toute la zone autour de la caserne, plaçant véhicules blindés, pick-up et hommes armés de mitrailleuses et de RGP au carrefour. Le gouvernement de transition attribue l'impasse du désarmement du RSP à deux généraux, Gilbert Diendéré, leader du putsch manqué, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères sous le régime du président déchu Blaise Compaoré, ce qui a conduit l'opposition et la société civile à monter une fois de plus au créneau. On écoute Roch Nagalou, le président du syndicat des commerçants.
Nous interpellons le RSP, particulièrement Djendjéré. Un Burkinabé ne peut pas verser le sang des Burkinabés. Toujours nous lui lançons un appel de déposer les armes et de ne pas laisser verser le sang de ses compatriotes. Et nous lançons un appel au gouvernement qu'à partir de maintenant, nous n'allons pas quitter cette place de la nation tant qu'ils ne vont pas trouver une solution définitive à cette affaire.
Voilà, c'était donc Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères, a été arrêté ce mardi à Ouagadougou pour des raisons en lien avec le putsch du 17 septembre à Ouagadougou. Et en Afrique du Sud, le nombre de meurtres a augmenté de 4,6% entre 2014 et 2015, avec près de 49 personnes tuées chaque jour, selon les statistiques officielles révélées mardi par la patronne de la police nationale. Et entre avril 2014 et mars 2015, 17 805 meurtres ont été commis dans le pays, soit une hausse de 782 crimes par rapport à l'an passé. C'est la troisième année consécutive de hausse du nombre de meurtres en Afrique du Sud. Malgré ces chiffres, le gouvernement a préféré souligner que la tendance sur les 10 dernières années était à la baisse. Et conséquences humanitaires graves dans le bassin du lac Tchad provoquées par de violences de Boko Haram. L'ONU compte déjà 2,5 millions de personnes déplacées dans cette zone difficilement accessible, frappée par la sécheresse et les inondations de manière récurrente. La crise risque de s'aggraver davantage si la communauté internationale n'intervient pas. C'est l'analyse de Manassé Aboya, professeur de sciences politiques à l'université de Douala au Cameroun, joint à Yaoundé.
La zone du bassin du lac Tchad est une zone extrêmement difficile à escalader. C'est une région aride où les conditions de vie au quotidien sont toujours difficiles. Vous savez que c'est une zone qui est toujours en proie à une sécheresse assez aiguë, très tendue. De même que pendant la saison de pluie, c'est une zone qui est toujours frappée d'inondations. Donc on peut comprendre que, faute d'un développement conséquent, quand il y a un événement inattendu, conjoncturel comme Boko Haram, Il va de soi que la situation humanitaire devient une situation catastrophique parce que favorable à la débandade, favorable à des conditions de vie extrêmement difficiles pour les populations déplacées.
Est-ce que les pays concernés n'ont pas des moyens suffisants pour des réponses appropriées à cette crise humanitaire?
C'est davantage la situation créée par des zones de non-droit. Vous savez que l'extrême nord du Cameroun, qui avait le parc de Ouaza, avait toujours eu par le passé à abriter des braconniers qui venaient tuer les gardes forestiers et semer la mort sur leur passage, les morts de paysans, des forces de l'ordre. En réalité, la pauvreté qui s'est agglutinée à côté d'une zone de non-droit a favorisé effectivement la propagation de ce genre de situation. Naturellement, cela va de pair avec une répartition inéquitable de la bonne gouvernance. Donc on peut comprendre que ce soit des zones négligées qui, face à la montée en puissance du terrorisme et de l'insécurité transfrontalière, soient le terreau propice de ce genre de crise, comme nous sommes en train de le vivre, la crise humanitaire dans la région du bassin du lac Tchad.
Il y a 2,5 millions de personnes déplacées, dont 2,3 millions d'entre eux sont des déplacés internes. Peut-on parler d'une population sacrifiée?
C'est une population qui est dans la tourmente. Vous voyez, du Niger au Cameroun en passant par le Tchad, voire le nord-est nigérien, c'est une région extrêmement prise dans les taux de difficultés. C'est une crise qui va affecter beaucoup plus que 2 millions et demi de déplacés, parce qu'en réalité, c'est une zone qui abrite pas moins de 5 millions d'âmes de part et d'autre des frontières. Donc, ma foi, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. Ces pays-là, laissés à eux seuls, ne peuvent pas faire face à cet afflux de réfugiés. Il faut absolument une intervention de la communauté internationale.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Afghanistan, les forces gouvernementales soutenues par l'aviation américaine ont tenté aujourd'hui de reprendre aux talibans le contrôle de Kunduz, la cinquième plus grande ville du pays, au lendemain de sa prise surprise par les rebelles. Les talibans, eux, veulent appliquer la loi islamique. Claire Morin-Gibourg.
Ce sont près de 383 000 migrants qui ont rejoint la Grèce et environ 129 000 l'Italie. Le HCR ajoute que ces personnes, souvent épuisées et traumatisées par un voyage où beaucoup succombent, ont besoin d'une protection internationale. Selon les Nations Unies, la Méditerranée continue d'être la voie la plus meurtrière pour les réfugiés. Depuis le début de l'année déjà, environ 3 000 personnes sont mortes ou portées disparues en tentant de rejoindre l'Europe par la mer, contre 3 500 personnes en 2014. Dernier exemple de ce voyage périlleux en Libye, où les gardes-côtes ont annoncé avoir secouru cette nuit 346 migrants, en majorité des hommes, à bord de trois canots pneumatiques. C'est ce qu'affirme Mohamed Janan, un officier des gardes-côtes libyens. Les migrants ont été acheminés vers la base navale de Tripoli avant d'être placés dans des centres de rétention. Les pays européens se sont mis d'accord la semaine dernière pour se répartir 120 migrants et aider financièrement les pays voisins de la Syrie. Mais l'ONU a appelé les dirigeants à faire davantage, alors que l'Europe traverse sa plus grande crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale.
C'était plutôt Lucille Hamon qui nous parlait de la crise des migrants en Europe. Le cap d'un demi-million de personnes ayant traversé la Méditerranée vient d'être franchi selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'Eurocommissariat de l'ONU pour les réfugiés. Retour sur ce dossier en Afghanistan. Je vous le disais donc, les États-Unis ont frappé aujourd'hui pour tenter de reprendre la ville de Kunduz sous le contrôle des talibans. Claire Morin-Gibourg.
La prise de Kunduz est la victoire la plus importante des talibans en près de 14 ans de rébellion. La facilité avec laquelle les rebelles se sont emparés de la ville jette une lumière crue sur les limites des forces gouvernementales qui les combattent seules sur le terrain depuis le retrait à la fin 2014 des troupes de combat de l'OTAN. Les talibans paradent dans Kunduz à bord de 4x4 volés, scandant Allahu Akbar et appelant les habitants de la ville à la soumission et à la délation.
Je demande à chacun d'entre vous d'aider les moudjahidines à dénoncer les traîtres et les hypocrites et ceux qui se comportent mal envers le peuple.
Même
Et voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes sur VOA Afrique en compagnie d'Éric Manet. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.